Bienvenue à ce petit débat, discussion, qu'on aimerait d'ailleurs engager aussi avec vous, autour de la littérature suisse romande. Vous savez que, vous ne savez pas, mais je vais vous l'apprendre, que c'est en partie parce que cette année, nous fêtons les 50 ans du Centre de recherche aux lettres romandes, que j'ai souhaité ouvrir un petit espace de discussion autour de ce qu'est la littérature romande aujourd'hui, de ce terme même, finalement, qui peut parfois poser problème, la dénomination même, hein, littérature romande, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça a encore un sens, d'ailleurs, d'utiliser cette formule qui a un côté très, très connoté, c'est le moins qu'on puisse dire, pour des tas de raisons. Ça, c'est, disons, la raison un peu historique ou institutionnelle pour laquelle j'ai proposé d'organiser ce débat. Les autres raisons sont des raisons plus circonstancielles, mais qui finalement constituaient une série d'éléments ou de symptômes presque sur ces questions. D'une part, la récente réédition de l'histoire de la littérature en Suisse romande, qui d'une certaine façon a été aussi l'occasion de réinterroger ou d'interroger à la fois la formule et le contenu. Qu'est-ce qu'on met actuellement sous cette étiquette, à quoi elle sert, pourquoi on l'utilise ou pourquoi on l'utilise bien ou mal, c'est toute une question sur laquelle j'aimerais revenir aussi. Et d'autre part, j'avoue qu'il y a encore un autre fait qui cette année ou à peine avant m'a poussé à entrer dans ce sujet, plus avant, c'est moins la publication que les commentaires qu'on a pu lire suite à la publication d'un volume d'écrit de Bertil Gallon, enfin des mémoires de Bertil Gallon quasiment, sur la littérature romande telle que lui l'avait au fond d'une certaine manière incarnée ou vécue et telle qu'il l'a restituée dans cet écrit rétrospectif. Moins je dirais la question telle que lui l'a abordée que la manière dont ce regard a été reçu et commenté récemment, c'est-à-dire une sorte de regard qui était à la fois, à mon sens, dénué de véritable recul dans les commentaires. Donc, toutes ces raisons m'ont fait penser que c'était peut-être pas si mal de réunir autour d'une table plusieurs personnes pour en débattre. Et voilà, j'ai convié d'abord à Amandine Glevarec, qui est à ma droite.
Bonjour.
Je vous présenterai tout de suite après. Sylviane Dupuis, à l'extrême gauche. Et Yvan Faron. La raison de ce choix, ou les raisons de ce choix sont multiples. J'ai souhaité, au fond, avoir, d'une part, une personne comme Amandine Glevarec, qui est, une Suisse romande récente. Amandine Glevarec vit en Suisse romande depuis un an et demi, et assez rapidement après son arrivée, dont elle pourra peut-être nous parler tout à l'heure, elle a ouvert un site qui s'appelle littérature-romande.net, qui est consacré précisément à la littérature de Suisse romande essentiellement d'aujourd'hui. Et c'est une personne, justement, une Française, qui est arrivée en Suisse et qui, finalement, a peut-être quelque chose à nous dire sur le regard relativement extérieur de quelqu'un qui tombe dans un univers littéraire extrêmement constitué, pour toutes sortes de raisons, historiques, institutionnelles, etc., et qui se situe par rapport à ça. Et c'est précisément cette raison-là qui me paraissait intéressante à explorer dans ce cas-là. Sylviane Dupuis est un personnage multiple dans la littérature romande, puisqu'elle est à la fois poète, essayiste, écrivain de théâtre, critique, enseignante à l'université, j'ai envie de dire aussi actrice culturelle, engagée au sens fort depuis de nombreuses années, que ce soit par ses écrits ou par son engagement aussi, notamment pour la Maison de la littérature à Genève. Donc, c'est un regard de quelqu'un qui a au fond accompagné depuis en tout cas 30 ans le développement, les mutations et le discours aussi sur la littérature romande, et là qui a participé également d'ailleurs à l'histoire de la littérature en Suisse romande dont je viens de parler, et qui est donc un témoin, disons, de à la fois dedans et dehors, qui me paraissait extrêmement intéressant d'écouter dans ce contexte. Yvan Farran, quant à lui, j'ai souhaité l'inviter moins en tant qu'écrivain, encore que je l'apprécie beaucoup en tant qu'écrivain, que comme, disons, personne qui a été à la fois justement immergé dans la Suisse romande, mais qui a également été pendant un certain nombre d'années en Suisse alémanique, et qui a aussi été un passeur ou un témoin de la Suisse romande en Suisse alémanique dans le domaine de la promotion des traductions, par exemple, puisqu'il fait toujours partie de la commission de la collection CH, par exemple, et puis en même temps, comme il est parfaitement bilingue, un
c'est pas vrai.
Si, bien sûr, tout le monde le sait. Comme quelqu'un qui est un interlocuteur privilégié, en tout cas en Suisse alémanique, lorsqu'il s'agit de parler de la littérature de Suisse romande ou des auteurs de Suisse romande. Donc, trois positions bien différentes qui, en même temps, permettent peut-être, par leurs intersections, voire par leurs différences, d'aborder cette question ou ces questions que fait surgir l'étiquette elle-même littérature Suisse romande. L'idée est aussi d'avoir de votre côté ensuite des questions ou des réactions par rapport à ce que vous pensez de ce concept, s'il en est temps, ou si on peut, comment on peut encore l'utiliser, s'il faudrait peut-être en utiliser d'autres. Mais la langue n'est pas si innocente que ça, et parler littérature romande n'est pas forcément une question si innocente que ça. Donc, c'est au fond toute cette sorte de, à la fois d'actualité et de malaise à certains égards qui me paraît intéressant à aborder. Alors Amandine, commençons par vous. Qu'est-ce que vous avez vu, ressenti ou découvert en plongeant comme ça dans la littérature du surmonde quand vous êtes arrivée?
J'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'actualités, beaucoup d'écrivains, beaucoup de maisons d'édition. Ça foisonnait un petit peu à tous les niveaux. On a un éditeur qui est là, justement. Je vois, ça recoupait beaucoup de choses. En fait, je ne m'attendais pas à autant de publications dans un si petit village, finalement, puisque les Suisses parlant français sont 1,9 million. Ce n'est pas non plus exceptionnel. Et c'est vrai que je m'attendais pas à une telle richesse.
Donc, ça veut dire aussi qu'avant, vous n'en connaissez rien?
Quasiment rien, non. Heureusement, c'est vrai que tout le monde se moquait de moi quand je suis arrivée parce que je ne connaissais pas Ramu. Là, j'étais en vacances dans le sud de la France, j'ai pu vérifier concrètement en librairie, et c'est vrai que Ramu n'apparaît pas dans les librairies françaises, en tous les cas, la vingtaine que j'ai pu visiter. Donc, je comprends mieux pourquoi je ne connaissais pas. Mais après, les auteurs contemporains, ou même les maisons d'édition suisses romandes, ne sont pas forcément représentées. Je pense que la seule que je connaissais quand j'habitais encore à Nantes, je suis quand même aussi à l'ouest, hein, il faut se dire qu'il y a quand même 1000 km, on n'est pas en France voisine pour le coup. C'était sans doute Zoé. C'est la maison qui est, j'imagine, la plus connue à l'étranger, enfin la mieux diffusée en tous les cas. J'avais vu certains exemplaires d'Héros Limite, en sachant que cette maison a la spécificité quand même d'exporter les trois quarts de la production de leur tirage. Donc c'est vraiment une maison particulière aussi. Mais autrement, non, j'en connaissais rien du tout. Je ne m'étais jamais posé vraiment la question, à vrai dire.
Et donc c'est assez. Vous avez tout de suite vu ce paradoxe, au fond, en arrivant, entre un foisonnement, une richesse extrêmement grande, après on parlera de la qualité, c'est encore autre chose, et la visibilité ou la, vis-à-vis de l'extérieur. À l'extérieur.
Ouais.
Donc, une certaine impression, malgré tout, d'une richesse enfermée, à certains égards.
Alors après, on peut se poser la question, en élargissant un petit peu à la francophonie, est-ce que je connaissais plus d'auteurs québécois, par exemple, ou est-ce que je connaissais plus d'auteurs belges?
Bien sûr.
Forcément non plus, hein,
non,
finalement. Bon, ça reste de la littérature. Est-ce qu'on est obligé de repartir sur l'origine des gens pour les lire, ou est-ce qu'on se pose ce genre de questions au préalable, finalement? Mais je pense que la question de la diffusion, oui, ça devient, en tous les cas, quelque chose d'important actuellement. Et on sent aussi l'envie des auteurs suisses ou des éditeurs suisses de se faire diffuser, au moins en France. Il y a toujours ce rapport avec le grand pays voisin dont on attend un petit peu la validation. Alors maintenant, il y a Joël Dicker qui nous a quand même permis de faire parler de la Suisse.
Mais ce qui est quand même déjà assez symptomatique, ça signifie en tout cas que bon, voilà, ce qui est contemporain, ce qui se passe actuellement, en effet, il y a peut-être une dynamique différente aussi pour toutes sortes de raisons liées au changement aussi des circuits de diffusion et aux pratiques éditeurs. Mais ça signifie quand même, du coup, que, d'après votre expérience, on va dire, la littérature classique de ces romans, celle qu'on considère souvent comme les auteurs qui comptent ici, disons qui font partie d'une sorte de petit panthéon local, sont vraiment à l'usage interne, d'une certaine manière, disons, si on s'en tient en tout cas à la diffusion.
Hein. Oui, tout à fait. Ouais,
c'est ça. Sylviane, qu'est-ce que ce constat t'inspire?
Bon, disons, ça a quand même pas mal changé. Hein. Je crois que le malaise, il est en train de se déplacer et de changer beaucoup, malgré tout. Mais ce que je peux dire, par rapport à mon expérience, par exemple, c'est que chaque fois que j'étais invitée à l'étranger, chaque fois, on me disait, vous allez parler de votre œuvre, mais d'abord, vous allez présenter la littérature suisse romande. Et en fait, c'est une expérience que ne vit pas un écrivain français, pas un écrivain allemand, pas un écrivain italien. Et c'est ça qui commence à... quand on entre dans le circuit, en quelque sorte, on se dit, voilà, il y a quelque chose de totalement différent. En tant qu'écrivain suisse, on porte sur son dos la littérature suisse romande, en l'occurrence, et on doit la présenter. Puis après, on veut bien s'intéresser à ce qu'on a écrit. Et c'est vraiment un grand problème, disons. Moi, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la littérature romande, parce qu'on doit en parler... De plus en plus dans ces cas-là, et puis on finit par s'intéresser beaucoup à savoir ce qu'on a à en dire. Mais je pense qu'il n'y a que les Belges, effectivement, et nous, qui dans la francophonie avons ce problème. Parce qu'on n'est ni africain, c'est-à-dire exotique pour la France, on n'est ni du Canada, c'est-à-dire très soutenu par un État quand même qui soutient beaucoup sa francophonie. Et on est une petite minorité qui n'existe pas pour le dehors. Quoi. Ceci dit, autre expérience, c'est que des auteurs comme Ramu sont lus, par exemple, en Inde, sont lus dans le Maghreb, sont lus en Iran, Jacotet. Il y a des auteurs... Enfin, Jacotet n'est pas un auteur de Suisse romande, si on veut, mais il vient quand même d'ici, profondément. Et il y a des auteurs issus de la littérature suisse romande qui apparaissent à d'autres hors champ français, comme parmi les plus grands du XXe siècle, et qui suscitent thèses, recherches, passions de jeunes étudiants d'aujourd'hui. Voilà, donc je pense qu'on est complètement dans une articulation assez schizophrène, comme ça, où il y a chez nous des auteurs d'extrême importance, des très grands auteurs, qui le paraissent à d'autres au dehors, et en même temps, on n'existe pas pour la France en tant que littérature suisse francophone, personne n'en connaît rien. Donc, mon propos, il est plutôt de chercher comment faire exploser cette petite image de littérature suisse romande refermée sur elle-même et qui ne concerne qu'elle-même, et en même temps de dire, il y a des auteurs, et ces auteurs, ils entrent en rapport avec d'autres œuvres qui se sont produites, par exemple en France, en même temps. Et ça, on s'en est jamais occupé. C'est-à-dire de dire transversalement qu'il y a ici des œuvres comme celle de Safonov qui apparaissent en même temps ou presque avant Annie Ernaux, comme celle d'Alice Riva qui apparaissent en même temps ou avant Simone de Beauvoir, il y a des pulsions aussi vers la Russie, que ce soit de la part de Ramu, que ce soit de la part de Sandrard, que ce soit de la part de Jacotet, que j'ai découvert dans le Pléiade, je ne savais pas à quel point la Russie intéressait Philippe Jacotet. Et il y a d'autres façons de lire notre littérature, me semble-t-il, qui pourraient faire exploser cet enfermement et cette étiquette. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à revendiquer que ce soit des auteurs qui soient issus d'ici. Je ne vois pas la honte qu'il y aurait à avoir. Voilà.
Je ne suis pas tout à fait sûr à part ça que ces choses-là n'aient pas été forcément relevées ou dites. Simplement, je pense que c'est une question après de réception ou d'accent mis sur... On a beaucoup plus insisté peut-être sur l'esprit de famille davantage que sur ces côtés-là qui ont par ailleurs peut-être été relevés. Mais est-ce que tu ne crains pas, à part ça c'est une question un peu presque digressive, que de devoir systématiquement passer par un... font par une comparaison ou par une relation, ce soit déjà une sorte de presque d'aveu de faiblesse.
Non,
tu vois ce que je veux dire par là?
Non, pas du tout. Bien au contraire, c'est une revalorisation dont je parle. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres qui se sont développées. Par exemple, Ramu était considéré comme d'avant-garde. Il faudrait replacer les œuvres, les grandes œuvres nées dans ce contexte-ci. Non pas seulement dans un contexte suisse roman en marge, toujours en marge, décalé, mais dans la réalité littéraire de l'Europe du XXe siècle. Et à terme, je suis parfaitement d'accord que, et c'est ce que je dis à chaque début de séminaire, c'est qu'il me semble que le terme littérature romande, c'est un terme pour le moment qui est militant, qui est pour faire savoir qu'elle existe, qui est un terme momentanément utile, mais qui à terme devrait disparaître devant des œuvres de littérature en français issues de Suisse, comme il y en a qui sont issues de France, comme il y en a qui sont issues de certains pays africains, etc. Voilà.
On continuera à rebondir à tout à l'heure, parce que j'ai un certain nombre de questions à te poser là-dessus, mais Yvon, pour toi, vu de Suisse allemande quand tu y étais, ou par rapport aux réactions des interlocuteurs que tu as pu avoir, qu'est-ce qu'on dit ou qu'est-ce qu'on pense d'une éventuelle littérature romande à Zurich?
J'aimerais d'abord répondre et réagir à ce qui a été dit avant par rapport à la littérature romande. Donc je suis évidemment d'accord, je relève aussi le foisonnement que soulignait Amandine, hein. Je relève les écarts dans la reconnaissance et dans la réception de certains écrivains. Tu as cité les plus fameux d'entre eux, on pourrait rajouter Nicolas Bouvier, Starobinsky et de nombreux autres. En même temps, tu as relevé quelques auteurs sans doute injustement reconnus au plan international. Je voulais simplement rajouter, puisqu'il a aussi été question de Bertil Galland tout à l'heure, que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si je compare à l'époque de Bertil Galland, où on définissait vraiment... Bertil Galland a essayé de définir la Suisse romande, par exemple, par rapport au calvinisme, à l'introspection, je pense à la génération des auteurs publiés par Bertil Galland. J'ai l'impression qu'on n'est plus du tout là-dedans aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au fond, si on parlerait d'une littérature romande d'aujourd'hui, elle n'aurait en tout cas consciemment plus grand-chose à voir avec cette littérature revendiquée par Galland. Donc c'est pour ça que finalement, cette connotation militante me semble, finalement aujourd'hui, n'est plus tout à fait d'actualité. Je dirais peut-être que Bertil Galland a milité
elle le serait en tout cas autrement.
Et alors pour répondre à la question sur la réception alémanique, je crois que les choses sont assez simples. Les Suisses allemands ne s'intéressent pas du tout à la littérature romande. Sauf exception, il faut qu'elle soit traduite. S'il y a une bonne traduction et une bonne réception, il peut arriver qu'un livre suscite en Suisse allemande un véritable intérêt. Je citerai pour exemple le récent « Milieu de l'horizon » de Roland Buty, qui a été traduit à Zurich et qui a été vendu à, je crois, 15 000 exemplaires dans le domaine allemand. Donc c'est suisse-allemand et l'Allemagne aussi qui entre en ligne de compte. Donc là, évidemment, il y a une véritable considération pour un livre. Il y a aussi certains auteurs, Anne Cuneo, de Roulet, sont par exemple des auteurs à Zurich que l'on connaît pour des raisons aussi circonstancielles. Anne Cuneo vivait à Zurich, de Roulet est bilingue. Mais ceci dit, ce que j'ai dit est valable, d'autant plus que le français, au fond, disparaît en Suisse allemande. En tout cas, il est encore parlé, à peu près compris. Mais évidemment, par rapport à l'anglais, que la plupart des Suisses allemands instruits parlent quasiment parfaitement, il va de soi que le français est zweigrangig.
Bon, pour réagir à la fois à ce que tu viens de dire et à ce que disait Sylviane tout à l'heure, ce qui me paraît à moi maintenant devenir de plus en plus difficile ou problématique, c'est que ce soit en Suisse alémanique, mettons, pour inciter les traductions, parce qu'évidemment, on ne peut pas imaginer que ces traductions surgissent spontanément, puisqu'il n'y a pas un intérêt préalable, donc il faut qu'il y ait une incitation. De même, pour ce qui est de la diffusion ou du discours, il faut il faut un accompagnement ou il faut une politique au sens large du terme. Alors le problème contemporain que je vois moi par rapport à ça, c'est que c'était assez facile de travailler une politique globale avec une étiquette comme littérature romande. Je veux dire, ça permettait d'avoir une sorte de sésame assez simple qui ensuite permettait de construire quelque chose qui était de l'ordre de la défense militante. À l'heure actuelle, ce n'est tout simplement plus possible pour des raisons, c'est pour ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que qui peut se reconnaître dans une étiquette collective ? Alors, je veux dire, il n'y a plus d'étiquette collective par rapport à...
Elle n'a jamais été collective, l'écriture.
Et si, bien sûr, mais je veux dire, à l'époque de Galland, elle était collective dans le discours.
C'est lui qui le dit.
Mais oui, mais c'est lui qui le faisait fonctionner. Je veux dire, ça faisait fonctionner vis-à-vis de l'extérieur un concept qui était construit, qui était certainement...
Il a été éditeur, Bertil Galland d'abord. Il a voulu faire de la promotion des auteurs qu'il a édités. Et il avait bien raison sur le moment de construire quelque chose pour que apparaissent comme très importants les auteurs. Et c'était quand même Chappat, c'était Bouvier, c'était Anis Grobetti, c'était Levet. Ils avaient peut-être rien à voir les uns avec les autres. Ils étaient extrêmement différents, mais ils étaient des auteurs Galland. Donc il a construit.
Il ne disait pas que c'était des auteurs Galland. Non, mais il disait que c'était une famille d'auteurs. Attends, c'est différent.
Il a été militant à sa manière. C'était un concept utile.
Je ne dis pas qu'il était inutile. Ce que je dis par là, c'est que là, à ce moment-là, ça pouvait fonctionner en marche de cette façon-là, accompagné aussi par, je ne sais pas, les saintes écritures de Jessé, parce que ça va ensemble. C'est la même manière de défendre quelque chose qui est censé former une sorte de tout, qui a une cohérence ou une proximité, ce qui, évidemment... devenu quasiment impossible à faire de nos jours. Donc la difficulté que je vois, ou l'articulation difficile, c'est maintenant de savoir comment réussir à faire une promotion de ce type-là, ou bâtir une politique, à partir de quelque chose qui est, par la force des choses, beaucoup plus individuel ou disséminé.
Mais ce que je trouvais intéressant, nous on a décidé d'appeler notre blog littérature-romande.net. Quand on a ouvert le blog au début, on avait 75% de Français, 25% de Suisses à peu près dans les consultations. En un an, on est ouvert depuis un petit peu plus d'un an, on voit que le rapport s'est totalement inversé. Maintenant, on a 75% de Suisses et 25% de Français. C'est-à-dire qu'on est en train de rater l'objectif qui était quand même de promouvoir la littérature suisse romande à l'étranger. Mais après, ce qui, moi, m'interroge toujours, c'est ce besoin des Suisses de se regarder entre eux, finalement. C'est peut-être là le problème aussi, c'est que les Suisses se considèrent à la base comme des auteurs suisses, regardent ce qui se passe, les autres auteurs, au lieu de se considérer dans une francophonie un petit peu plus... peut-être que la difficulté est le manque d'extériorité ou de pouvoir... C'est ce milieu clos, fait, qu'il faudrait peut-être réussir à casser, puis arrêter
de... C'est très clos sur soi, et c'est très enfermé dans une façon de n'avoir de rapport que les uns avec les autres.
Mais voilà, c'est ça qui est
éclaté vers l'extérieur.
Vous ne croyez pas que ça, c'est un des gros problèmes, précisément, de la promotion culturelle actuelle ? Je veux dire, quand on a un milieu culturel, comme le milieu littéraire suisse-romand actuel, avec autant d'instruments internes de promotion et de reconnaissance, pourquoi est-ce aller à l'extérieur ? Je veux dire, ça c'est une espèce... Le nombre de prix littéraires en Suisse romande a triplé en 15 ou 20 ans. Je veux dire,
reste quand même le fantasme des auteurs suisses de se faire publier en France.
Mais c'est un fantasme, c'est quand même entre le fantasme aussi. Et la réalité, c'est-à-dire la réalité objective de la vie d'un auteur en Suisse romande actuellement, c'est-à-dire du parcours... lambda X moyen, un auteur suisse romand actuellement a beaucoup plus de chances de réception, d'être bien reçu et d'être reconnu en Suisse romande, vu la densité d'institutions internes, que de se lancer sur un marché beaucoup plus large. Alors je ne dis pas du tout qu'il ne faudrait pas le faire, mais j'entends, c'est une tentation très forte. Et si ce que vous dites se produit, c'est-à-dire qu'on regarde beaucoup, mais c'est précisément pour cette raison, parce que forcément, c'est une question liée à la fois à la force de ce tissu institutionnel et malgré tout au fait qu'on est un pays riche. Je veux dire, c'est un fait. Je dis pas qu'il y a énormément d'argent qui est mis dans la littérature, mais il y en a quand même relativement, en tout cas suffisamment pour que ces marques-là soient bien réel.
On peut dire la même chose de la Belgique. La Belgique fait aussi beaucoup pour ses auteurs à l'interne, et en même temps, les auteurs publiés à Paris et en France apparaissent très vite comme les écrivains français. Et ça vaut la même chose pour nous. Enfin, j'entends, en fait, on commence à devenir écrivain reconnu en France quand on passe pour écrivain français. C'est quand même la réalité. C'est-à-dire quand on est chez Gallimard, quand on est Mercure de France, quand on oublie complètement et on n'a rien à faire du fait qu'on soit suisse ou belge, on est auteur français, point. Alors ça, c'est une réalité. Et puis, parallèlement, la Belgique, le Canada, la Suisse ont raison quand même de s'occuper, malgré tout, de faire exister tous ceux qui sont quand même 90% qui ne sont pas publiés dans les maisons parisiennes et considérés comme français. Je veux dire, il faut quand même pas dénoncer ça, je crois. C'est une réalité.
C'est pas une dénonciation, oui. C'est simplement, je dirais, une interrogation ou un constat par rapport à ce phénomène tel qu'Amandine l'a relevé par un autre biais, c'est-à-dire le biais de votre observation.
Oui, de la consultation et puis au quotidien. Bon, après, il y a forcément cette question des subventions qui se pose, évidemment. Je parlais de foisonnement, on peut aussi parler de surproduction. C'est quand même pas un sujet qui fâche aussi. Il y a beaucoup de publications en Suisse, même en chroniquant 3 par semaine, avec ce que j'ai reçu là sur l'année. J'en ai à peu près pour 3 ans de lecture, ce qui est quand même fou. Hein. Donc on se demande si... Alors peut-être que se faire valider, enfin se faire vraiment valider, oui, en se faisant éditer par une maison française, ça devient gage de qualité parce qu'on sait que le manuscrit arrivera s'il est reconnu. C'est que voilà, impression qu'en Suisse ça marche plutôt par la démarche inverse, c'est-à-dire est-ce que j'ai les subventions pour publier mon livre? Oui, je les ai. Bon, bah il va être publié. Est-ce que ça fait la valeur du livre? Moi, c'est vraiment des choses qui continuent de m'interroger et qui... Après, je ne peux pas dire que je connais le milieu du livre forcément en France. Hein. Je n'étais pas du tout dans ce domaine-là quand j'y étais. Je ne connais pas du tout le montant des subventions ou le nombre de livres qui ne paraissent que parce qu'ils sont subventionnés. Mais ça m'interroge en tous les cas de voir que dans cette surproduction, malheureusement, ça peut aussi... gâcher les voix qui pourraient émerger dans d'autres circonstances.
Il faut voir qu'il y a aussi un lectorat en Suisse romande qui est exceptionnel. Il faut quand même dire qu'il y a une exception ici qui tient à des traditions de lecture, peut-être à un certain enseignement, je ne sais pas. Mais par exemple, l'édition de poésie qui en France ne se vend absolument pas, enfin c'est très difficile d'éditer et de vendre de la poésie en France. On vend le même nombre d'exemplaires ici qu'en France. Bon, c'est-à-dire qu'on peut publier, par exemple, un exemplaire à 1000 exemplaires ou à 700 exemplaires et en 2-3 ans, l'avoir épuisé ici,
bien
avec
sûr.
Quelques-uns qui se vendent en France. C'est possible, il y a les lecteurs. Il faut dire aussi qu'il y a une réalité, pas seulement des auteurs et des subventions, mais il y a une réalité des lecteurs en Suisse romande qui fait exister cette littérature et qui n'est pas à mépriser. C'est elle qui porte cette littérature.
Mais sans mépris, on se rend compte aussi, bon, il y a beaucoup de lecteurs effectivement en Suisse, gros lecteurs, mais ils lisent aussi... vraiment suisse. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ce milieu clos, justement.
Ah oui, non, ils lisent beaucoup la France. Non,
ils lisent beaucoup la France, mais ils lisent beaucoup, suisse qu'un Français irait lire français, par exemple.
Voilà. Il y a quand même un intérêt. Il y a une espèce d'autodénonciation qui entre dans un... Pour moi, c'est un processus qui existe depuis 200 ans ici, c'est-à-dire une façon de tout le temps battre sa coulpe et tout le temps dire on a tort, on a honte. Enfin, j'ai relevé des phrases absolument incroyables qui se sont dites en Suisse romande sur la littérature romande dont on est modeste, on a honte, etc. Et on n'arrête pas de s'auto-dénigrer ici.
Mais c'est pas du tout ça.
Alors, voilà.
C'est pas de l'autodénigration, c'est essayer de comprendre comment fonctionne un système et puis de se demander si au contraire on ne peut pas parfois tomber dans une sorte... Moi j'ai lu des choses récemment sur la vivacité extraordinaire de l'édition romande, le fabuleux essor, etc. Je trouve que c'est du triomphalisme facile. Je ne suis pas le genre en bas de ma coule particulièrement, mais là, je trouve que des fois, on en fait plutôt trop dans l'autre sens, en tout cas dans une certaine presse. Je suis désolé, moi, je trouve que ce n'est pas vrai. Parce que je trouve que ce n'est pas la quantité de livres qui fait la qualité, je continue de le penser, que ce n'est pas non plus la quantité d'éditeurs qui garantit une qualité d'une vie littéraire. Et je pense qu'il y a une vie littéraire, certes, extrêmement forte, je ne suis pas sûr qu'il y ait un renouveau littéraire ou une qualité littéraire si haute que ça. C'est mon point de vue, hein. Je l'assume entièrement, mais je trouve que des fois on confond un peu les deux choses et que c'est pas battre sa coulpe simplement que d'admettre qu'il peut y avoir aussi des dysfonctionnements par rapport à ce fonctionnement, c'est tout.
Oui, mais simplement, on est êtes en train, il se passe quelque chose en Suisse romande quand même, je trouve, qui est assez extraordinaire, c'est que précisément cette Suisse romande qui n'arrêtait pas d'avoir honte d'elle-même, d'être dans la culpabilité, d'être dans l'intériorité tragique, etc., elle explose dans tous les sens. Il y a des auteurs qui écrivent des choses extrêmement différentes les unes des autres, qui sont des auteurs finalement, je pense, qui ressemblent de plus en plus à des auteurs européens, qui sont de moins en moins typés Suisse romande. Il y a une espèce d'éclosion, et plutôt que d'accompagner ça en s'en réjouissant, moi j'aurais pas le discours de dire de dénoncer ça, disons, voilà, c'est juste, je trouve dommage.
Non, si je peux intervenir là-dessus, je partage le pessimisme, enfin disons une légère méfiance qui me semble. Oui, je trouve que là, un petit peu de méfiance est justifiée par rapport à un enthousiasme journalistique par rapport à cette rentrée fourmillante et merveilleuse qui peut parfois nous paraître un peu factice, d'autant plus que les journalistes ont beaucoup de livres à lire. Certains sans doute font très bien leur travail et peut-être même sont-ils sincèrement enthousiastes. Mais ce qui me frappe, c'est aussi quand je lis ces dithyrambes sur la littérature romande d'aujourd'hui, de voir finalement que quasiment elle s'auto-édite, c'est-à-dire qu'elle s'édite en Suisse, au fond elle se diffuse relativement peu, tout en revendiquant ce côté européen, mais en même temps ça reste un petit peu en vase clos. Mais ce que je voulais dire par rapport à deux livres qui m'ont semblé importants et qui, alors, eux ont eu une véritable audience internationale, je pense au livre de Buti dont je parlais, Le milieu de l'horizon. Ce qui est intéressant, c'est que c'est finalement un livre qui s'inscrit dans ce qu'on considère comme de la littérature suisse traditionnellement. C'est un livre, par exemple, qui a été comparé par les critiques zurichois de la NZZ à Ramu, dans son côté tragique. C'est un livre qui parle de la paysannerie helvétique et finalement qui offre peut-être une figure d'identification aussi bien des lecteurs alémaniques qu'à des lecteurs romans, parce que c'est une paysannerie finalement assez proche. Et puis finalement, ça a suscité des identifications hors de la Suisse, aussi parce que l'histoire est bien faite. Donc là, on trouverait au fond, je dirais, une littérature suisse capable de passer les frontières. Et alors, après, je citerai un tout autre exemple dans un genre très différent et sans doute peut-être accompagné d'un grand point d'interrogation. C'est le cas de Dicker. Dicker, qui d'ailleurs aujourd'hui a droit à deux pages dans le temps et qui nous explique que la littérature doit divertir comme les séries télé. Bon, moi, il n'a pas peur d'assumer ce genre de propos. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dicker, en français, écrit une littérature finalement qui n'est plus de la littérature française, c'est de la littérature américaine écrite en français et avec des personnages américains. Il n'y a même plus de personnages européens dans les livres de Dicker. Et donc là, il y aurait peut-être quelque chose aussi de nouveau qui d'ailleurs ne concerne pas que la Suisse. Ce serait au fond finalement comment un modèle de roman dominant peut finalement engendrer une espèce de surjon, enfin de roman écrit à l'américaine par des non-américains. Et il y aurait peut-être des questions à se poser qui certainement dépassent le cadre de cette discussion.
Mais moi, je crois que c'est aussi le fait de la littérature contemporaine. Dounalou vient de sortir un livre sur Madagascar, Dicker en sort sur les États-Unis. Chacun écrit sur ce qui... Oui. Surtout, Dicker, il a passé toutes ses vacances dans sa famille aux États-Unis. Il est complètement entre les deux cultures, entre les deux pays. Je veux dire, chacun écrit à partir de ce qu'il est.
C'est pas la même chose d'écrire sur des pays que l'on connaît que d'écrire, que de construire un univers entier de référence où l'Europe disparaît. J'ai l'impression qu'il y a un pas supplémentaire.
Et alors, c'est accusé, ça?
Non, pas du tout. Mais c'est juste que la littérature change.
Moi, les deux textes que tu relèves me font penser que, disons, simplement, voilà, là, on a deux cas de figure, de deux livres qui sont sortis là. Est-ce que, pour poser la question au fond de départ, est-ce qu'on peut dire que ces deux livres appartiennent à ce qu'on pourrait appeler la littérature romande? Voilà, c'est une question comme ça. Est-ce qu'on peut imaginer que si quelqu'un aujourd'hui va parler de littérature romande, on parle, ou est-ce qu'il doit en parler autrement? Comment, au fond, la question de l'étiquette, elle ressurgit toujours par rapport à ça. Et ce que tu dis du livre de Buti, dans un certain sens, pourrait penser, ben oui, il y a toujours une sorte de lien ou de renvoi, certes, qu'on peut considérer daté ou qu'on peut considérer très, très orienté, mais qu'on arrive à faire. Dans l'autre cas, on n'arrive pas. Indépendamment de cela, il se trouve que l'un comme l'autre, et surtout le deuxième plus que l'autre, ben, est à la une de tous les journaux depuis un mois. Donc, on ne peut pas nier qu'institutionnellement, il est en plein dans l'institution romande en ce moment. Après, voilà.
C'est un phénomène. C'est pour ça que la presse s'en empare. Enfin, voilà, c'est un phénomène qui s'est produit et forcément la presse rebondit dessus. C'est un cas particulier, c'est pas...
Alors là, sans trop m'avancer, parce que je connais pas vraiment les prémices de l'histoire de Dicker, mais quand le livre est paru, en tous les cas, c'était vraiment avec une volonté de s'exporter. C'était... ce qu'on peut trouver différemment. Buti, je ne sais pas du tout. Bon, ça passe par Zoé, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est vraiment une maison suisse qui est connue à l'étranger, enfin, en tous les cas en France. Mais effectivement, ça parle de la Suisse, mais j'ai trouvé très, très pertinent. Quand même.
Moi, je voulais réagir à ce que tu disais avant par rapport à cette sorte d'éclosion ou de foisonnement actuel. Moi, j'ai l'impression que la littérature en Suisse romande a été comme ça dans les années 30, par exemple dans les années 40. Donc c'est pas du tout une nouveauté qu'il y ait des auteurs aussi divers. Je sais pas, quand je pense aux années d'entre... On a parlé avant
de Dalí de Ribas.
Mais oui, donc c'est pas une nouveauté. C'est ça que je veux dire. Donc en fait, cet aspect-là est un aspect qui peut-être permettait déjà d'interroger le concept à ce moment-là et qui devrait peut-être aussi inciter à réfléchir à la manière dont on écrit l'histoire littéraire et dans la manière dont on promeut les textes. Parce que entre Alice Riva, Pierre Girard ou Ramu ou Catherine Colomb qui ont écrit à peu près tous en même temps, il y a une diversité qui est tout aussi comparable à celle qu'on a dans la production contemporaine, au fond.
Si je peux me permettre, la nouveauté, c'est pas les auteurs ou la littérature romande, c'est sa réception ici. Parce qu'il ne faut pas oublier que si aujourd'hui, pour la nommer, Isabelle Falconier reconnaît à ce point la littérature romande et lui fait un pont d'or, il y a quelques années, dans l'hebdo, elle n'y croyait absolument pas. Elle disait, est-ce que la littérature romande, ça existe? Ah oui, ça existe. Donc je veux dire, il y a eu une énorme évolution et moi, je l'ai vu se faire en 15 ans. C'est très, très impressionnant. C'est-à-dire que ni les librairies, ni les médias ne considéraient que la littérature romande avait une quelconque validité. En gros, c'était ça. Et il a fallu militer à Genève. Si Philippe Renaud n'avait pas créé une chaire, un séminaire de littérature romande qui est encore et toujours... Attends.
Oui,
qui est encore
et toujours... Du tout. Donc je suis absolument pas d'accord.
Alors attends, qui est encore et toujours le seul. La littérature issue de Suisse romande, que je serais personnellement très favorable à l'idée de traiter de littérature francophone de Suisse, pour moi ce serait bien mieux.
Ça serait bien, oui.
Ça enlèverait tous les problèmes parce qu'il n'y aurait absolument plus de concept roman, de romandie, de nationalité là derrière. Il y aurait juste une langue. Et c'est... Donc, littérature francophone du Suisse romande, mais personne n'y croyait. Il y a 20 ans, personne n'y croyait.
Moi, je ne suis pas d'accord parce que quand je relis les journaux comme la Gazette de Lausanne, le Journal de Genève, les chroniques d'Annet ou d'Isabelle Martin, j'estime que simplement ce qui était relevé, c'était les bons livres de Suisse romande et pas. Une espèce de production à tout venant à laquelle je ne crois pas forcément. Donc je pense qu'il y a une grande différence effectivement dans la valeur, dans la manière dont on parle de la production, mais je crois que les bons livres ont eu une très bonne critique en Suisse romande. Le premier roman de Catherine Colomb, 1932, a eu, je les ai comptés, 50 articles dans la presse de Suisse romande, pile ou face, pour une inconnue. Je ne suis pas sûr que de nos jours la presse suisse romande aurait la capacité d'avoir une réception de ce type-là. Donc, j'y crois pas à ce que tu dis du tout.
Non, mais c'est la presse qui a changé, Daniel. C'est la presse qui a changé. Ce que tu dis, c'est une dénonciation de l'état de la presse et de la communication contemporaine. Que ce soit Le Monde, que ce soit la Gazette de Lausanne, que ce soit la Neue Zürcher Zeitung à Zurich, ces journaux étaient exceptionnels dans leur répercussion de la littérature et ils sont de plus en plus menacés et ils sont de plus en plus à courir après les coups.
Je vais dire à Sylviane Dupuis que la NZZ reste exceptionnelle
plus que n'importe quoi
dans le domaine littéraire.
Mais non, mais je le sais. Hein. Mais simplement, c'est le procès de la presse qu'on fait, ou disons de ce que les temps ont fait de la presse.
Oui, mais donc du coup, est-ce qu'on peut dire que la réception médiatique de la littérature est encore une réception médiatique qui a quelque chose à voir véritablement avec la littérature ? On pourrait se poser la question.
Mais c'est une réception médiatique, mais qui n'est plus pour autant forcément critique. Tu fais mention de Georges Annet, d'Isabelle Martin. Annet était un grand critique. Pour la question qui se pose, c'est y a-t-il encore de grands critiques littéraires dans la presse romande ?
Ben, du coup, on en revient finalement à la question de départ d'une autre manière. Qu'est-ce que c'est de nos jours que de parler de la littérature en Suisse romande, et par quel canon ou quels critères on peut imaginer véritablement faire à la fois, au fond, le tri, parce qu'il faut quand même en faire un, et puis avoir une politique culturelle qui serait véritablement une politique culturelle efficace pour faire passer les contexte au fond, parce que la question elle est quand même là, et pour avoir une sorte de véritable passerelle efficace dans ce domaine.
Après, c'est sûr que je suis obligée de faire des choix, parce qu'effectivement il y a une grosse production. J'ai fait le choix, il y a des maisons qui se portent très bien sans moi. Zoé par exemple vit très bien sans moi, s'ils n'ont pas une chronique sur mon blog, ça leur passera pas, c'est pas grave. J'ai plutôt décidé au contraire de parler des jeunes maisons d'édition, parce que c'est, même humainement, je trouve que c'est intéressant en 2015 de lancer sa propre maison d'édition, sachant que ça ne rapportera pas un copec et qu'on n'en vivra pas. Je trouve ça courageux. J'aime bien parler des petits jeunes comme ça. Après, les choix, il y en a qui sortent du lot tout seuls, mais pour qui, pourquoi, est-ce que c'est quand même certainement dû à leur qualité littéraire, je pense. C'est forcément des gens qui m'arrivent. Comment les livres m'arrivent finalement, par quel canot j'en entends parler, ou pourquoi mettre en avant l'un et pas l'autre, ça reste un peu mystérieux, même pour moi, finalement, tout ça. Même, voilà, j'essaie de rester curieuse en tous les cas, mais c'est vrai que...
Et puis, dans un choix de traduction, alors de livres à traduire, quels sont tes critères, au fond, par exemple, dans une commission qui doit sélectionner, donc finalement, qui, d'une certaine manière, classicise potentiellement, ou en tout cas, permet... d'ouvrir une porte par rapport à ça.
Alors, bon, là, il faudra évidemment revenir sur cette collection CH et sa vocation de promotion. Il y a deux aspects, il y a deux canaux. Il y a d'une part ce que les éditeurs proposent. Dans le cas, par exemple, du roman de Buti, l'éditeur de Zurich, Nagel et Kimche, était persuadé que ce livre, au fond, avait narrativement un potentiel absolument supérieur à tout ce qui s'écrit en Suisse romande. Donc c'est une impulsion éditoriale. Ce que nous proposons dans une commission, c'est souvent des livres, pour moi, c'est des livres qui sortent un peu du lot. Ça peut être parfois des écrivains que j'ai beaucoup aimés. Jean-Luc Benosilio, à un moment, j'ai essayé un petit peu de le faire retraduire en allemand parce qu'on ne le traduisait plus. Là, j'ai proposé un livre très original qui est le livre d'un enseignant lausannois qui s'appelle Jean Prodon, Tesson. C'est quelque chose qui est un petit peu entre la prose poétique, le texte bref à la Francis Ponge. Je trouve que ça a quelque chose de très original. Et donc voilà, c'est un peu le hasard de mes déambulations de lecteurs. Et parfois, ces livres sont publiés, bien traduits. Souvent, leur réception est très modeste. C'est rare que ces livres suscitent un grand enthousiasme critique ou un grand succès commercial. C'est assez rare. On reste dans des petits tirages, mais dans des choses souvent de très bonne facture.
Il ne faut pas oublier non plus que les livres ont le temps devant eux et que la littérature, elle ne se fait pas dans le présent. Je veux dire, les livres qui restent, même ça vaut pour Nicolas Bouvier, L'usage du monde, ça vaut pour... Enfin, les livres, ils mettent 30 ans. On met 30 ans à savoir, ou 40 ans, ou 50 ans, à savoir si un livre, il est vraiment important, il a vraiment changé quelque chose ou pas. Je crois que la vraie question, elle est là. Oui. Le problème, c'est qu'au moins, les livres aient une existence. Oui. C'est juste qu'on dise qu'ils existent. C'est ça, l'important. Et le reste, c'est les lecteurs, et c'est le temps, et c'est la décantation qui va faire que ces livres restent ou pas. Et je crois que c'est elle qui a toujours raison, la littérature.
Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas des relais, quand même, du coup, qu'on pourrait... renforcé dans ce domaine-là, je pense par exemple simplement dans l'école, par exemple.
Oui, Oui, c'est ce que je disais. Le grand drame, c'est que la littérature romande, pendant très longtemps, n'a pas du tout intéressé ni l'école, ni l'université. En tout cas, par exemple, à Genève, c'était très, très difficile. Il y avait une petite niche, comme ça, de 2 heures de littérature romande. Et ça, ça vaut depuis 30 ans. Hein. Et donc, s'il n'y avait pas ça, ces 2 heures-là, il n'y aurait simplement pas une œuvre de littérature romande qui serait étudiée à l'université de Genève. Donc, nous avons aussi notre responsabilité Dans l'histoire de la réception de la littérature romande ici même. Maintenant, ça change, et je pense aussi que ça change parce que tout simplement, cette littérature est de plus en plus reconnue, en dépit de ce qu'on dit, et que peu à peu, il y a par exemple Ramu en Pléiade, etc. Ça fait bouger un petit peu les esprits. Ils disent tiens, j'avais pas pensé que c'était si important que ça. Et c'est cette reconnaissance-là, c'est-à-dire de la littérature avec un grand L de ce qui s'est produit ici, Catherine Colomb, effectivement, mais il faut qu'on fasse des choses, il faut que, on a fait un colloque récemment sur Catherine Colomb, il va y avoir une réédition des œuvres, on ne le fait pas assez, on est responsable aussi du fait que cette littérature, elle ne se dit pas assez vers le dehors et vers les gens. C'est à nous de le faire.
Mais ça, est-ce que finalement, il n'y a pas, on parlait de politique culturelle, est-ce qu'il n'y a pas justement une part de politique ou de choix politique au sens large qui sont au fond qui tombent un peu à côté d'une certaine manière, parce que ce que je veux dire par là, c'est que encourager la publication ou promouvoir le livre, disons au sens large du terme, si précisément on se donne pas les moyens de l'inscrire davantage dans la durée, on peut se demander si tu peux encourager, parce que ce que je constate maintenant, c'est qu'il y a une assez bonne visibilité ou une présence du livre ou une aide à la publication qui existe, hein, qui a toujours existé, mais par exemple, dans les écoles, je pense du Cantozo par exemple, il n'y a pas du tout de véritable suivi par rapport à ça, par exemple. À Genève, je crois que c'est un peu différent.
C'est-à-dire que, non, pas tellement. Ce qui se passe, c'est que ce sont des gens qui se mobilisent. Il se trouve que le prix du roman des romans a énormément changé la donne, parce qu'une seule personne s'est mobilisée pour créer le prix du roman des romans. Et après, il y a une personne qui s'est mobilisée à Genève, Philippe Renaud, il y a 30 ans, pour créer ses œuvres. Il y a toujours une personne ici ou là qui agit, et c'est de l'action. C'est pour ça que je parlais de militantisme, hein, c'est-à-dire que poser quand même le fait que nous avons une grande littérature et qu'il faut agir pour ça. Il faut mouiller sa chemise, quoi. Voilà, c'est ça.
Oui, mais bon, ça on peut pas. C'est juste parfaitement d'accord avec toi pour le constat sur le roman des romans et sur ce type d'effet. Mais est-ce qu'on peut considérer que l'action individuelle qui peut surgir ou pas est une politique culturelle? Je ne crois pas. C'est ça que je veux dire.
Après, l'action personnelle, elle est soutenue ou pas. Et c'est là que le politique, il prend toujours le relais, au fond, de ce qu'on lui propose. Et en ce moment, oui, je pense que le politique est en train de rebondir là-dessus, très clairement. Oui.
J'aimerais dire aussi sur l'enseignement de la littérature romande à l'école, que moi, je suis prof de français dans un gymnase à Lausanne, j'enseigne à des élèves qui vont passer le bac le français à raison de 4 fois 45 minutes par semaine. Je leur enseigne la dissertation, l'histoire littéraire, nous lisons Baudelaire, Proust, Flaubert et d'autres. Il est évident que s'il y a un peu de temps, nous l'utilisons. C'est vrai que les élèves souvent demandent de lire des œuvres écrites en Suisse romande. C'est vrai que de lire un roman, par exemple, situé à Lausanne, évidemment que c'est une expérience de lecture tout à fait riche, mais nous ne pouvons pas non plus y consacrer tout notre temps, évidemment.
Non, c'est une question de pourcentage, je crois. Enfin, ce qu'on a réussi à gagner à Genève, en tout cas, c'est que sur les 10 auteurs de maturité, il y ait une femme et un roman.
On est dans les quotas.
C'est un peu les quotas minoritaires. Ah, oui. Ouais.
C'est du militantisme, parce que sinon, il n'y en aurait pas.
C'est une vraie question, effectivement. Est-ce qu'on doit passer par les quotas, au fond, par rapport à cette phase militante? Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Je ne sais pas, mais pour revenir à la durée de vie d'un livre, justement, et sur le fait que ça soit l'histoire qui gardera les grands écrivains, quand on apprend que la durée de vie d'un livre en librairie, c'est quand même 3 mois, c'est ça... Ouais, 3 mois. 3 mois, s'ils ne vont pas du tout. Mon Dicker est toujours en librairie, évidemment. Il y restera un petit moment, il y restera plus longtemps. Est-ce que l'histoire retiendra Dicker, finalement?
Est-ce que l'histoire retiendra Dicker
comme auteur du 21e siècle, suisse roman?
vraie question. Édouard Rod, on ne l'a pas retenu, en tout cas, si vous prendre l'exemple historique, ou un tout petit peu. Mais la question par rapport à ça, c'est effectivement celle du relais institutionnel, en tout cas dans l'école. C'est vrai que c'est un élément quand même capital par rapport à... Et je pense qu'en Suisse romande, on a encore quelque chose à améliorer dans ce domaine-là, si l'on voulait véritablement aller dans ce sens.
Oui, mais par exemple, la génération qui maintenant arrive à l'écriture des Thomas Brugger, etc., hein, qui a 22, 23 ans, ben, il est de cette génération qui a eu le roman des romans et qui est venu à la littérature romande parce qu'on la lui a fait lire, alors qu'avant, il ne savait même pas que ça existait. Je veux dire, moi, j'ai fait mon collège à Genève, on ne m'a pas une seule fois dit qu'il y avait des auteurs en Suisse romande. Enfin, j'entends ça, ça n'existait pas dans le paysage. Donc voilà, c'est quand même une différence énorme. Il me semble qu'un saut a été fait là en 30 ans, c'est juste incroyable. Et pour eux, c'est une évidence qu'ici on écrit et qu'il y a des auteurs vivants. Et que, voilà. Et alors après, ben, le temps fera le tri, encore une fois, mais il faut des volontés pour que ça change. Ça ne se fait pas tout seul. Voilà.
Non, ça, je crois qu'en effet, ça ne se fait pas tout seul.
Tu es partie prenante de ça.
Est-ce que toi aussi, tu as eu cette même expérience par rapport à la connaissance de la littérature romande quand tu as fait tes études, par exemple? Parce que tu étais aussi dans l'ignorance. Aussi.
Oui, mais j'ai lu un livre de Ramu au collège. C'était La Grande Peur dans la Montagne, qui était, je crois, au programme du collège en 8e année, dans le canton de Vaud, 8e année Ancien Régime. Oui, mais bon, ceci dit, j'avais quand même lu Ramu parce qu'il y en avait dans la bibliothèque de familiale. Enfin, c'est aussi ça, c'est quand même, c'est en tout, il n'y a pas que l'école, il y a tout le reste. Il y a les parents, les amis. Après, je me suis intéressé à la littérature romande parce que j'ai pu rencontrer certains de ces auteurs qui étaient en vie, parce que je voulais voir, lire ce qui s'écrivait par ici. Mais au fond, cette curiosité n'a pas tellement été suscité par l'école, c'était plus au fond de mon propre chef que j'ai fait ça. Oui, ça m'intéressait, mais l'école peut le faire, mais ça peut être aussi, voilà, ça peut être, voilà. Mais il y avait Ramu dans la bibliothèque de mes parents, il y avait les Mermaux, voilà, j'ai lu ça un petit peu quand j'étais petit, c'était pas l'école, quoi.
Une chose qui a beaucoup fait, c'est la guilde du livre. Je me souviens qu'alors chez mes parents, il y avait tous les livres de la guilde. Et voilà, ça oui. Mais il y avait donc des Suisses romans et puis d'autres. Enfin, c'était des publications qui cherchaient à mettre en évidence des très très bons livres, qu'ils soient français. C'est une entreprise extraordinaire, ça. Mais voilà, c'est
un catalogue immense qui avait en même temps une vocation, disons comme ça. Sociale d'une certaine manière,
fait,
c'est-à-dire une
fait.
Pénétration du livre très loin, etc.
Voilà, mais ça, c'était les entreprises qui ont fait beaucoup pour...
Par rapport, disons maintenant, à des questions plus liées à, justement, à la diffusion, à la reconnaissance ou à la circulation, est-ce que... Il me semble qu'on a eu un temps en Suisse romande, il y a peut-être une vingtaine d'années, une sorte de grand rêve de la diffusion francophone, hein, de la francophonie comme voie de salut possible par rapport à la relative impossibilité d'entrer sur le marché français. Et il me semble maintenant, j'ai l'impression que j'ai, je ne sais pas si vous la partagez, que c'est finalement quelque chose qui s'est un peu freiné d'une certaine façon, qui est moins présent. Donc, il me semble que le souci de la diffusion francophone, au sens par exemple du Québec ou de voire même d'autres régions francophones, est moins présent à l'heure actuelle dans les politiques éditoriales ou dans la circulation. Je ne sais pas, c'est vraiment plus. Je lis très rarement ou très peu de choses liées à cela. Est-ce que c'est...
Je pense que la France, elle a beaucoup soutenu la francophonie tant que c'était la France qui était au centre, et qu'en ce moment, dans la francophonie, ce qui se passe, c'est que les francophonies sont en train de revendiquer d'être quasiment à égalité avec la France dans la francophonie, et que ça déplaît à la première littérature française qui soutient beaucoup moins la francophonie. Je pense qu'il y a de ça, il y a des enjeux politiques absolument énormes. Puis d'autre part, la Suisse n'a pas été membre de la francophonie pendant très longtemps, c'est tout à fait récent, et ça encore, c'est une de nos erreurs. Enfin, moi, je l'ai toujours pensé, c'est qu'on ne faisait pas partie de la francophonie. Donc, effectivement, on était oublié tout le temps. Et on est entré très tard, au moment où la francophonie est en train de se dissoudre. Voilà.
Donc en fait, si je transforme, j'interprète ce que tu viens de dire, au fond, l'avenir de l'édition et de la diffusion romande et de la littérature romande, c'est de devenir un centre suffisamment fort, disons, au sens éditorial, pour être au fond un pôle possible dans l'ensemble de la francophonie. C'est un peu ça. Enfin, c'est ce que voulait Ramu, au fond, si l'on veut. Ce que voulait les Cahiers Vaudois.
Oui, ça et des auteurs qui vont être reconnus de plus en plus. Mais évidemment, c'est très, très gênant d'attacher la nationalité à un auteur. Je trouve que ce n'est pas du tout intéressant.
On ne le fait plus, même ici, parce que on regarde le corpus contemporain, ouais,
on le fait quand même en anglais, par exemple, sur les traductions de l'anglais, c'est quand même toujours, maintenant, à présent, en tout cas, c'est précisé, anglais de l'Inde, anglais d'Afrique du Sud.
Donc ça devrait juste
pas le faire en français.
C'est souvent lié aussi à des particularités linguistiques, c'est pas uniquement l'appartenance.
On ne peut pas les nier.
Oui, mais les pays anglophones et la littérature anglophone n'a pas les mêmes problèmes que la littérature en français par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas de centre.
C'est un problème, finalement, c'est plutôt une qualité
En France ?
Non, pour les Anglais, justement, je trouve que c'est pas...
Justement, on n'a pas ce problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le problème du grand centre, comme disait Chamoiseau. C'est quand même, il y a un problème de colonisation du monde, quand même, de ce point de vue-là, par une image du grand centre qui
plombe aussi les régions françaises. Hein.
Oui, je sais bien. Dès qu'on est à Lyon dès qu'on est à Nice, on n'est plus... tout à l'heure, Marilyn Desbiol, qui habite Nice, disait, moi, je suis prête à me dire auteur francophone et non plus auteur française, parce que j'habite Nice et pas Paris. Donc, je veux dire, ça réagit même en province, en France, parce que c'est vrai qu'il y a eu ce grand centre complètement comme un aspirateur et qui a...
Mais les choses changent en France aussi. J'ai vraiment l'impression. Je suis nantaise, je vois bien la Talente, par exemple, qui existe en tant que maison nantaise, qui se revendique.
Non, je pense que les choses changent. Mais du coup, la francophonie, effectivement, se dissout un peu parce qu'elle, peut-être qu'elle a gagné de ce point de vue-là, jusqu'à un certain point.
Elle a gagné probablement en s'émancipant du modèle politique qui la sous-tendait pendant très longtemps. Donc je pense qu'on peut peut-être arriver à une espèce de polycentre éditorial et littéraire francophone qui modifierait effectivement la circulation.
Et nous avons notre chance
livre.
Ici.
Clairement.
Je pense que c'est ça l'avenir.
Alors je pense que débaptiser la littérature romande dans le sens où tu l'indiques serait peut-être une... À terme.
Oui. Dans la langue française, il y a la littérature de Suisse,
francophone,
il y a la littérature de Belgique, il y a la littérature de France, dans la langue française.
On pourrait peut-être citer l'exemple suisse-allemand, puisque vous savez que la Suisse allemande est peut-être un peu, la culture germanique est peut-être un peu moins centralisatrice que n'est la culture française. Tout le monde le sait, mais ce que je trouve intéressant, c'est que les auteurs suisses-allemands, souvent, se sont définis, entre autres, parce qu'il y a aussi des définitions politiques, mais il y a souvent une étiquette de littérature suisse telle qu'elle est présentée en Allemagne, qui est une étiquette flatteuse, puisque l'on considère que les auteurs suisses-allemands sont de grands stylistes de la langue allemande. Et cette qualité... est souvent revendiqué par les auteurs eux-mêmes, et certains, je pense par exemple à Peter Bixell, avec qui j'ai pu en parler récemment, soulignaient au fond le caractère peut-être un peu paradoxal, au fond le fait que le dialecte finalement fasse que l'écrivain suisse-allemand sait, comme Proust l'a dit, qu'il écrit dans une langue étrangère, au fond c'est peut-être le cas de tout le monde, mais disons que les Suisses-Allemands le savent particulièrement. Et donc, ça, paradoxalement, alors qu'on pourrait imaginer que ça ait une influence négative sur leur écriture, eh bien, ça fait souvent, ça incite à une très très grande recherche au niveau du style. Et donc, finalement, le label national se retrouve, mais pour le coup, devient avantageux et bénéfique. Et je me demandais, en pensant à ce débat, si au fond, les Suisses romands n'auraient pas avantage et intérêt à explorer cette piste. Alors, je ne dis pas que les Suisses romands soient dans la situation de diglossie des Suisses allemands, mais peut-être que ce léger écart pourrait se transformer et donner des choses intéressantes au plan littéraire.
Pour vous, justement, Amandine, est-ce que vous avez remarqué, quand vous avez commencé à lire des auteurs suisses, qu'il y avait des traits stylistiques ou linguistiques ou quelque chose de particulier que vous vous êtes dit « Ah tiens, là je lis un auteur suisse ou pas ?»
Ah oui, je le remarque tout le temps. Dans les petites choses, forcément, mais la question se pose même sur des choses aussi banales que 70 ou 70. Est-ce qu'on fait, on s'adapte à son marché ? Est-ce qu'on vise la France en mettant, je vais mettre 70 ? Est-ce que je laisse 70 en me disant, ça va peut-être être exotique ou ça va être compris par les gens du cru ? C'est quand même des questions qui restent, que je continue de poser aux auteurs aussi, parce que est-ce qu'on parque sa voiture ou on la gare ? Dire à un Français qu'on parque sa voiture, c'est sûr que ça va, la personne ne va pas comprendre, mais c'est vraiment des choses comme ça qui sont... Alors c'est peut-être des petites choses, mais... On parlait des Québécois tout à l'heure. C'est vrai que les Québécois ont vraiment une langue québécoise. Ils ont poussé et assumé, en tous les cas, leur spécificité linguistique, aussi bien par rapport à la France, à la capitale, en tous les cas, qu'au Canada. Et je me demande si les Suisses, en fait, ne devraient pas vraiment jouer à fond la carte de du particularisme suisse.
Oui, mais bien sûr. C'est ça, pour ça, il faut pas renoncer à ça. Il y a quand même des marques. Par exemple, personnellement, je pense que les auteurs suisses du XXe siècle en langue française ont systématiquement déplacé les genres. Et qu'il y a vraiment un travail sur la déconstruction des genres ou sur la réinvention des genres ou sur une façon de les biaiser qui est absolument propre aux auteurs de Suisse romande. Parce qu'ils sont libres, ils ne sont pas dans une capitale, ils ne sont pas soumis à une pression énorme des éditeurs, ils font ce qu'ils veulent. Ils se permettent d'être d'une liberté absolument incroyable et du coup, ils inventent des genres et oui. ils les font exploser. Mais voilà, ça pourrait être dit, ça.
Ça, est-ce que ce n'est pas précisément, ça a parfois été dit, disons, mais est-ce que oui. ça n'est pas peut-être justement un des effets, comme ceux que tu soulignais avant par rapport à la poésie, un effet positif de ce fonctionnement malgré tout oui, très particulier et très
c'est
très
le décalage fermé. Fécond, on
ce
parle
que je veux dire par là, c'est que finalement, c'est aussi ce que tu disais avant par rapport à, mettons, à un succès planétaire comme celui de Joël Dicker. Si Joël Dicker faisait exploser les genres, je ne pense pas qu'il serait Joël Dicker. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a une part de réception possible ou d'inventivité possible qui, malheureusement ou heureusement, ça dépend des points de vue, va peut-être de pair avec... la relative absence d'intérêt commercial, par exemple.
Ça, c'est... Oui, mais ça vaut pour toute la littérature.
Plus ou moins.
Il dit qu'il veut plaire, il dit qu'il veut des lecteurs. Je veux dire, Balzac, quand il a commencé, c'était pareil, hein, dans ses feuilletons. Je veux dire, il faut aussi voir que la littérature se donne effectivement des directions et des ambitions. Pour le moment, ce qu'il veut, c'est avoir des lecteurs, un maximum de lecteurs, il a gagné ça. Avoir... Il a envie d'aller investiguer des choses plus propres à la construction. Ceci dit, c'est pas construit comment. Il faut quand même pas exagérer.
Ah non, la construction de loin pas.
Voilà. Mais j'entends. C'est quand même. Faut pas non plus dénigrer. Je veux dire une réussite. Comme ça. Mais c'est vrai qu'il veut des lecteurs. Voilà. Et que Balzac voulait des lecteurs dans les premiers livres qu'il a écrits.
Balzac, il a quand même réinventé le roman.
Oui, mais attends.
Américain.
Je ne dis pas qu'il est en train d'inventer la littérature. Je dis qu'il a le temps devant lui. C'est tout. Laissons-lui ce temps. Quand même.
On a encore un petit moment. Il y a plusieurs acteurs culturels et éditoriaux, etc. J'aimerais bien savoir si quelqu'un veut prendre la parole, poser une question ou réagir à ces propos à la fois...
Vous ne vouliez pas parler un petit peu du dictionnaire de la...
Non, de l'histoire de la littérature en Suisse romande, je ne sais pas, on peut. Dites-nous ce que vous en avez pensé.
Justement, j'ai un peu assisté au débat, aux controverses, et après je me suis demandé ce que moi-même, personnellement, j'aurais pu attendre d'un dictionnaire comme ça.
Non,
histoire qui aurait pu me récapituler un petit peu ce qui s'était passé avant que j'arrive en Suisse, en tous les cas. Quel nom je me serais attendue à y trouver, quel nom de contemporain aussi, finalement, parce que c'est quand même ce qui me préoccupe, puisque j'aime bien les auteurs vivants, je peux les rencontrer. Mais j'ai pas de réponse, à vrai dire.
Vaste débat.
Comment faire
je
un
pense
état
que
des
le,
lieux,
le problème, parce que je pense qu'on peut le dire comme ça rapidement, après, on va voir les réactions là aussi. Je pense que une histoire littéraire qui se dit histoire littéraire, mais qui fait en même temps une présentation de ce qui est le plus contemporain, réunit deux mouvements qui ne sont pas forcément compatibles entre eux. Et les raisons, au fond, de ce que vous avez appelé des controverses, qui sont des vaguelettes, hein, c'est pas grand-chose, vient précisément de ça. C'est-à-dire que et c'est peut-être aussi un ultime effet pervers de la clôture du champ. Les auteurs qui ont pu se sentir lésés parce qu'ils n'y figuraient pas ou n'y figuraient pas comme ils le souhaitaient, c'est parce qu'ils ont l'impression, du coup, qu'ils échappent à l'histoire, qu'ils sont hors d'une espèce de consécration qu'ils voient d'une certaine façon comme quasiment définitive. Et c'est vrai que le format du livre, hein, la présentation même en un seul grand volume comme ça, avec un grand index, etc., induit en très grande partie cet effet-là, qui est presque forcément enraciné dans cette double présentation. Il y a d'une part des choses historiques, on va dire d'une certaine façon incontestables, dont des auteurs morts, consacrés, enterrés, etc., sur lesquels on peut voir un discours avec un recul critique, et puis des auteurs qui sont en pleine activité ou qui sont même au début de leurs activités. Donc, tout d'un coup, ce corpus lui-même et la manière de le traiter ne peut pas être le même. Et je crois que ça, c'est une qualité ou un défaut, je dirais, consubstantiel au projet, à mon sens.
Oui, disons, ce qui fait la différence entre cette édition-là et la précédente, c'est qu'il y avait à la fin un répertoire de noms où quelquefois les auteurs apparaissaient dans ce répertoire et n'apparaissaient pas forcément dans les textes, mais ils y étaient. Et on peut comprendre, c'est vrai, que de disparaître de la mention soit un traumatisme et une chose très, très insupportable. Absolument. On peut très bien comprendre, j'entends. Oui, bien sûr. Mais ça n'a évidemment, ce livre n'a évidemment pas de valeur éternelle, quoi. Il est à un moment de la question. Mais c'est vrai que cette disparition-là d'auteurs qui même étaient mentionnés dans le précédent et qui ne le sont plus peut créer des effets.
Oui, mais en même temps, on en revient un peu à ce qu'on disait avant. Ce livre s'appelle Histoire de la littérature en Suisse romande. Certes, il rencontre aussi de la vie littéraire en Suisse romande, mais il passe forcément à la trappe énormément d'auteurs qui ont été extrêmement importants dans la vie littéraire, je sais pas, dans les années 30, 40 ou 50. C'est simplement la proximité et le contemporain qui posent problème pour les mêmes raisons. C'est au fond il faudrait dans une autre vie et dans un autre projet écrire, mais en plusieurs volumes, comme ça a été fait au Québec, parce qu'au Québec ils ont eu le même problème ou les mêmes questionnements, une histoire de la vie littéraire de la Suisse romande dans laquelle, de façon beaucoup plus systématique, on pourrait rendre compte, alors vraiment en allant dans le détail, de choses qui ne sont pas forcément de l'ordre de celles qui...
Mais en fait, est-ce que vous étiez obligé de vous frotter aux contemporains ? Parce que si on écrit une histoire, c'est vrai qu'on peut rester finalement sur ceux qui ont marqué l'histoire, mais qui sont généralement décédés quand même. C'était ambitieux, enfin, c'était aussi risqué de prendre le pari de maintenant déceler les gens qui resteront, les gens qui marquent suffisamment leur époque ou qui changent l'écriture dans une certaine mesure.
C'est un risque, absolument. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je pense que d'ailleurs, le fait que ce soit un risque, on le voit bien entre le volume dans l'édition précédente, le dernier volume qui était déjà un volume sur des auteurs contemporains et la refonte de ce même volume maintenant. Il y a des auteurs qui ont, par exemple, qui sont bien moins présents dans celui-ci qu'ils ne l'étaient il y a 15 ans. Ben, typiquement, ça, c'est justement l'indice de risque, on va dire. Hein. C'est simple. Moi, je crois que la concentration en un seul volume de ces deux choses le rend beaucoup plus visible que lorsqu'on a un volume détaché qui se dit plus attaché à un regard critique sur le contemporain, sans avoir justement l'audace ou la prétention de vouloir en faire un regard déjà historique, parce que c'est pas possible au fond.
Ni un regard exhaustif non plus, puisque vous n'y arriveriez pas. Non,
bah, si on voulait un regard exhaustif, on fait effectivement un dictionnaire ou je sais pas, un abécédaire, je ne sais pas.
Mais je dois dire, j'ai trouvé vraiment cette réédition
absolument convaincante, le fait aussi de rassembler tout en un volume, malgré peut-être le côté très austère, très Bible genevoise du tout. J'ai trouvé ça extrêmement, extrêmement paradoxalement, ça m'a donné envie de tout lire. Vraiment, l'austérité, parfois, peut inciter. Je trouve ça tout à fait remarquable. J'y suis bien traité, en plus, ce qui est extraordinaire. Voilà. Mais je le dis, et ce que je trouve aussi très intéressant, outre le fait que c'est un livre qui n'a aucun précédent et aucun équivalent dans une autre partie de la Suisse, c'est aussi très intéressant de voir par exemple certains auteurs, je pense par exemple à Philippe Jacotet, qui a un article qui a été écrit par un universitaire français, qui du coup se pose la question d'un point de vue français de la filiation de Jacotet par rapport à la poésie de Suisse romande. Donc je trouve que ces espèces d'effets de distance, de prise en considération, de l'altérité sont vraiment très 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 intéressants. C'est dans Sérieux égal, enfin dans toutes les contributions, donc à lire absolument. Il n'y a pas d'équivalent en Suisse allemande. Peut-être ce que fait Peter von Matt, si on aime ce genre de critique, ça va un petit peu dans, disons, dans ce sens-là, mais il n'y a pas de vue d'ensemble. Donc, bravo.
Est-ce que quelqu'un, du coup, dans le public, a quelque chose à ajouter ou à dire ou à critiquer ou des tomates à nous lancer ou... voilà. C'est toujours la première question qui est la plus difficile, mais voilà, quelqu'un qui lève la main. C'est Claire Dallier.
Oui, merci. Donc, Claire Dallier du canton de Genève, donc, en charge en partie de politique culturelle pour le canton. Bon, vous avez évoqué beaucoup, beaucoup de problématiques. Vous les avez bien. Vous en avez fait une bonne synthèse à travers votre dispute là, initiale. C'était très intéressant. Merci. Il me semble qu'une des questions qui revenait régulièrement était la question de la responsabilité de chacun, de la critique littéraire, des politiques, de l'éducation. Mais il me semble qu'on n'a pas du tout parlé du rôle et de la responsabilité du CRLR, justement, dont il s'agit aujourd'hui. J'aurais bien aimé vous entendre. Où est-ce que vous vous situez par rapport à toutes ces...
Ah, ça y est. J'y échapperai pas. Le CRLR est un institut universitaire d'études sur la littérature de ce qui a à voir avec la vie littéraire en Suisse romande ou des auteurs de Suisse romande. Il se doit, je dirais, en tout cas dans la politique qui est menée depuis sa fondation, d'avoir un recul qui est justement un recul en grande partie, en tout cas pour les activités de recherche ou d'édition, qui est un recul historique. C'est-à-dire qu'en effet, la prise en compte, que ce soit par les archives ou par des projets éditoriaux, implique une certaine distance par rapport aux contemporains ou par rapport à ce qu'on... Ce qui est pris en charge du contemporain dans les activités du CRR, c'est plutôt ce qui va dans l'enseignement. C'est-à-dire la partie d'enseignement, peut-être plus, en tout cas c'est comme ça que Doris Jacobek avant moi le faisait, et moi aussi, peut beaucoup plus être en phase avec des choses contemporaines, donc des livres qui paraissent, parce qu'ils sont intéressants en soi, et parce que l'enseignement permet d'avoir une étude, d'analyse de texte, ou de plusieurs textes en même temps d'un auteur sur un... donc strictement monographique, c'est autre chose que le travail de fond historique ou critique que l'on fait sur le plus long terme. Mais ce qui est certain, et je crois que d'ailleurs dans la petite polémique dont vous parliez tout à l'heure, c'est ce que j'ai trouvé un peu étrange, c'est que l'on confonde un centre de recherche qui existe comme tel sur le plan académique avec une sorte de lieu d'enregistrement de tout ce qui se publie en Suisse romande. C'est absolument pas, ça n'a pas de sens. Je veux dire, je n'ai jamais conçu le rôle de l'institut universitaire comme, et je pense que personne ne le conçoit comme tel, comme un lieu de valorisation d'une production, juste parce que c'est une production qui se fait ici. Je veux dire, c'est absurde. Ça n'a pas de sens, ni d'un point de vue d'objectivité critique, ni même d'un point de vue de l'intérêt des textes en tant que tels. C'est clair que ça s'inscrit dans cet espace qui est un espace à la fois historique, culturel et géographique, mais... nous, on n'est absolument pas là pour faire de la valorisation ou de la promotion. Ça, c'est hors de question et c'est quelque chose, je pense, qu'on a toujours veiller à ne pas faire, parce que ce n'est pas la mission d'une institution de ce type.
Mais ce qui se passe autour de Roux en ce moment, c'est quand même bien une forme de promotion.
Eh ben Roux, Roux est un classique. Je veux dire, moi je parle du contemporain. Roux est un classique.
Ah oui.
Il est mort en 1976. C'est un auteur majeur. Je pense qu'on peut le voir à toutes sortes d'éléments de liés à l'œuvre. Ce que je veux dire par là, que c'est bien sûr, mais pour Ramus, ça a été pareil.
Les archives sont toujours de morts, enfin, ou presque.
Ben voilà. Donc, si le travail est lié aux archives, voilà. Effectivement, on
construit.
Mais la petite, même pas polémique qu'il y a eu à propos de cet ado-là, c'était l'idée, en gros, l'université ne fait pas son travail parce qu'elle ne parle pas de tous les auteurs contemporains. Ça, c'est absurde. C'est quelque chose qui est même tout à fait irrecevable. Comme si, au fond, un centre de universitaire jouait le même rôle qu'un journal. Ou que on n'est pas du tout dans la même perspective. C'est plutôt ça, je dirais. Je ne sais pas si je vous ai répondu, mais... Ça avait plutôt dit le contraire. Il y a eu un ou deux articles en disant qu'en fait, dans l'histoire de la littérature en Suisse romande, il y avait beaucoup trop d'écrivains universitaires et d'universitaires parce que précisément l'université se servait elle-même. Ce qui veut dire, en gros, elle ne fait pas son boulot, elle fait son autopromotion si jamais il y a des écrivains qui sont liés à ce monde-là. Ce qui est une façon indirecte de dire la même chose. Si, si, il y a eu ça.
Ce que je voudrais peut-être dire, c'est quand même qu'il faut saluer l'extraordinaire évolution dans l'enseignement, en tout cas dans le canton de Vaud. Je peux en témoigner parce que j'ai été très souvent rencontrer des classes. D'abord, il y a des auteurs romans qui sont entrés au programme de bac. Ça ne date pas de cette année. Il y a Catherine Colomb, il y a plusieurs années en arrière, à Yverdon, si je ne me trompe pas. Il y a Jacques Otet cette année pour toutes les classes de bac à Burier. Il y a eu la poésie romande actuelle au gymnase de Chamblande. Enfin, il y a quand même énormément par rapport à il y a 20 ans. Et je pense que les travaux du centre, l'existence du centre et l'activité, il faut le dire, à l'époque résistante, conquérante et battante de Doris Jakubek, ont été décisives. D'une part, les travaux critiques du centre, par leur sérieux, leur côté international, pour beaucoup, franco-suisse par exemple, ont donné une légitimité, certainement, à la littérature dans une perspective historique, à procurer des outils de travail très utiles aux enseignants. Par ailleurs, c'est vrai, les cours de Doris Jakubek qui n'existaient pas, elle a créé les premiers cours de littérature romande qui se sont largement développés aujourd'hui avec Daniel Magetti, puisqu'ils ont été augmentés, ont formé une quantité importante d'enseignants qui sont aujourd'hui aux commandes et qui ont tellement aimé ces cours, j'en témoigne parce que je les rencontre dans leurs cours auprès des classes, qu'ils introduisent des auteurs romans dans les programmes scolaires. Donc ça, c'est quand même intéressant de relier la situation de la littérature romande, aussi bien historique que contemporaine, à l'anniversaire qu'on est censé fêter, qui est les 50 ans du centre de recherche, et qui a de belles années devant lui. Donc je voudrais juste dire ceci et remercier tous les enseignants absents aujourd'hui, mais qui font un travail formidable, non pas contre la littérature française, mais avec, intégrant l'un dans l'autre, parce qu'il s'agit bien de lire de la littérature en langue française. Par ailleurs, je précise encore, accessoirement, que les libraires profitent également d'une formation en littérature romande, des futurs libraires. Donc tout ça, ça crée quand même un réseau actif, même s'il est peu visible, de promotion quotidienne, constante, permanente des auteurs auprès du public et de ceux qui les défendront.
Merci de ce témoignage qui est en même temps, qui finalement est une réponse à ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que l'institutionnalisation à un certain niveau a ensuite toute une série de conséquences, dont cette pénétration progressive d'un corpus ou des œuvres et des études, y compris dans le domaine du secondaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres réactions? On arrive un peu tout à fait au terme de notre temps, mais je crois que personne ne va venir après nous, donc on a le temps si vous le souhaitez. Si ce n'est pas le cas, je crois que c'était une parfaite conclusion. Merci José d'avoir chapeauté notre débat. Merci à vous d'avoir été là. Merci aux participantes et aux participants. Et tout à l'heure, devant l'hôtel de ville, une partie plus festive par rapport à notre anniversaire du centre de recherche vous est proposée. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre à partir de 6h30. Et il y a une petite exposition à l'espace, c'est-à-dire 81, je crois, pour, hein, c'est mieux, qui est justement à l'angle de l'hôtel de ville, qui est une petite vitrine justement de nos activités à l'Université de Lausanne. C'est assez rapidement vu, ça donne un aperçu, je crois, assez fidèle de ce qu'on y fait. Merci si vous jetez un coup d'œil, ça nous fera plaisir. À tout à l'heure.